Alors, vous savez qu'il existe aujourd'hui, comme par le passé, beaucoup de manières, y compris dans l'Église, hein, d'aider les personnes et d'accompagner les personnes. Et donc, il faut distinguer, c'est d'autant plus important que dans nos Églises même, là où vous êtes, vous avez des tas de propositions qui sont relativement diverses et avec des définitions flottantes. Hein, les mots peuvent correspondre à des choses diverses, en sachant bien aussi que beaucoup de méthodes sont utiles dans leur contexte. Donc ce que je vais faire, c'est pas du tout la critique des autres pour dire laquelle est la bonne, hein. C'est plutôt essayer de préciser ce que nous entendons comme démarche comparaison aux autres, hein. Mais selon les lieux d'une part et selon les moments, les personnes, etc., toutes peuvent avoir leur utilité. Et je dirais même nous-mêmes, selon les situations et les personnes, nous pouvons être appelés à changer de méthode, etc. Alors, je voudrais juste vous lire un verset biblique qui peut nous rappeler qu'il est difficile de déterminer quelquefois ce qui est juste, que les choses ne sont pas noires ou blancs. Vous le connaissez peut-être, c'est un proverbe savoureux. Au chapitre 26, les versets 4 et 5, « Ne réponds pas à l'insensé selon sa stupidité, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. » Verset suivant, « Réponds à l'insensé selon sa stupidité, de peur qu'il ne devienne sage à ses propres yeux. » Donc vous voyez, c'est pas si simple que ça. Alors, je voudrais survoler rapidement, mais peut-être que l'année prochaine, on pourrait revenir là-dessus en creusant chacun des points. Là, je vais faire un survol. Premier point, première manière de faire, qui est probablement la plus ancienne, c'est la paternité spirituelle. Hein. Au fond, on en a parlé quand on a parlé des pères du désert. Ça se continue avec le mont Athos, la tradition orthodoxe, etc. Et ça existe encore aujourd'hui. Au fond, l'idée, là, c'est une personne qui rentre dans une relation forte de paternité par rapport à quelqu'un d'autre. Et, alors, on va peut-être aller le trouver en disant « Abba, dis-moi une parole », mais en tout cas, on va lui demander quelque chose. Et le père spirituel va dire quelque chose, soit à partir de son expérience, soit à partir, soit lui-même comme écoutant ce qui va monter en lui, ce que Dieu va lui dire, et il va donner une parole qui a autorité. Et dans cette logique, celui qui vient trouver le Père spirituel se situe lui-même dans une situation d'obéissance, c'est-à-dire qu'il considère le Père comme un peu le canal par lequel le Seigneur va le guider. Alors on comprend bien que cette démarche-là, c'est que au fond, le monde charismatique d'aujourd'hui a repris, pour une part en tout cas, hein, assez largement cette notion de paternité spirituelle. Deuxième tradition, c'est la tradition de la direction spirituelle. Alors c'est très compliqué cette direction spirituelle parce que le mot recouvre des choses finalement extrêmement variées. On pourrait dire que c'est la forme la plus classique en Occident, celle que l'Église catholique a très longtemps développée. Alors, l'expression est piégée parce qu'elle recouvre des choses très diverses. Et quand un protestant pense direction spirituelle, il pense en général une caricature. Hein. Il pense direction spirituelle autoritaire, où il y a un directeur impérialiste qui conduit complètement, qui dirige au sens musclé la personne. En fait, c'est très varié, et ça peut aller de ça, qui a largement existé. Hein, la caricature n'est pas sans existence historique. Jusqu'à des directions spirituelles pleines de tact, de doigté, de sensibilité, de subtilité. Si un jour vous avez l'occasion de lire les lettres de direction spirituelle de Saint François de Sales, c'est un modèle de d'écoute de la personne, de sensibilité, d'intelligence, de finesse, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Et là où c'est un peu piégé, c'est que dans le monde anglo-saxon, il y a tout un renouveau de la direction spirituelle, et en fait, ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon direction spirituelle correspond très exactement à ce que nous appelons accompagnement spirituel. Le problème, c'est que dans les milieux, je vous dis tout, dans les milieux protestants et évangéliques français, parler de direction spirituelle, ça passe mal. Hein. C'est un peu, alors c'est différent dans des milieux où le catholicisme est moins prégnant. C'est un peu, je dirais, comme le credo dans le milieu anglo-saxon, on va confesser l'Église catholique. même dans les milieux complètement protestants, parce que ça ne leur pose pas de problème. Ils savent que la catholicité n'est pas liée à l'Église romaine. En France, voilà, c'est plus compliqué. Alors, enfin, en France, hein. En francophonie, je pense en Suisse, c'est pareil, on parle d'Église universelle. C'est un peu la même chose. Mais dans le monde anglo-saxon, quand on parle de direction spirituelle dans les milieux protestants, c'est la même chose que ce que nous entendons. Dans cette direction spirituelle, là je reprends alors le terme dans une manière un peu catholique et traditionnelle de penser, c'est une relation là qui est stable, qui est longue, qui est approfondie. Hein, on choisit son directeur spirituel, on a un directeur spirituel, ça peut durer longtemps. C'est très souvent lié à la confession des péchés. Et contrairement au père spirituel qui va dire une parole, qui va donner un oracle, si j'ose dire, dit ce qui, voilà, là, le directeur spirituel est souvent lié à un type de spiritualité et il va expliquer ce qui va donner, la parole qu'il va donner à la personne dirigée. C'est-à-dire que la personne dirigée, on espère qu'elle va rentrer dans cette logique, rentrer dans cette démarche et comprendre ça. Mais en même temps, là aussi, pour la direction spirituelle, au sens classique, comme pour la paternité spirituelle, on attend obéissance. Hein, l'obéissance au directeur, c'est considéré comme allant de soi. Plus classique chez nous, c'est la cure d'âme. Hein? Au fond, c'est la forme, on pourrait dire, d'accompagnement classique dans le protestantisme. Hein? Cure d'âme, surtout autrefois. Hein? Après, vous allez voir, on dit ça autrement, mais le résultat est quand même le même. La différence entre la cure d'âme, me semble-t-il, et puis les autres modes d'accompagnement, c'est que la cure d'âme est toujours ponctuelle. C'est-à-dire qu'on va trouver, monsieur le pasteur en général, je dis monsieur parce qu'à l'époque de la cure d'âme traditionnelle, c'était monsieur, on va trouver monsieur le pasteur en disant, voilà, j'ai quelque chose qui ne va pas. Donc ce n'est pas un accompagnement sur le long terme, c'est en général, il y a un problème particulier et on va demander de l'aide en quelque sorte auprès du pasteur. La cure d'âme traditionnelle est quand même, au fond, l'application de la prédication au cas particulier, à la situation particulière d'une personne. C'est-à-dire que le cœur de la cure d'âme, ça va toujours être finalement le pardon des péchés, au fond le péché et la grâce. Hein? C'est le cœur de l'évangile qui est au centre. Hein? Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'accompagner le cheminement général d'une personne, mais résoudre une difficulté personnelle. C'est la forme la plus pratiquée dans le monde évangélique. La place de la Bible comme référence, comme source de conseil, la place de la prière, c'est très important. Et au fond, la compétence de celui qui pratique la cure d'âme est avant tout biblique et spirituelle. Et pour les pays francophones, je dirais que la référence un peu symbolique, c'est la doctrine de la cure d'âme de Thurneysen, qui est un proche de Barthes. Il y a plein de choses à prendre dans ce bouquin, d'ailleurs, c'est un livre très... La version moderne de la cure d'âme, ça sera ce qu'on appelle quelquefois le conseil pastoral, version francisée du pastoral counseling, très à la mode dans le milieu anglo-saxon. Au fond, c'est la cure d'âme moderne, qui se présente souvent aussi aujourd'hui sous le nom de relation d'aide. Méfiez-vous de la relation d'aide, parce que sous l'étiquette, vous avez tout. Dans ce tout, il y a beaucoup de bonnes choses, mais je veux dire, le mot lui-même recouvre une gamme qui peut aller de la cure d'âme à une certaine forme de psychothérapie cool, légère, light. Voilà, mais là-dedans, et avec des compétences allant de l'admirable compétence jusqu'à la bonne volonté. Mais voilà, beaucoup de choses. Alors on pourrait dire, il me semble que cette forme d'aide, c'est au fond la cure d'âme avec une dimension psychologique plus forte. Dans nos milieux, j'ai quand même l'impression, je dis des horreurs là, mais j'ai quand même l'impression que dans les milieux protestants, l'époque de la cure d'âme de Thurneysen, c'est l'époque barthienne où il y avait, je dirais, une très forte certitude de la vérité de la parole et de la force de l'évangile qui était prêché. Donc tout s'en fait là-dessus. Quand on est un peu moins fort, quand on est un peu moins sûr de tout ça, on va piocher très largement dans la psychothérapie. Et au fond, si vous regardez les bouquins qui sont sortis là-dessus, vous avez des livres de relations d'aide avec toutes les psychothérapies qui ont été ou qui sont à la mode à un moment donné. Dans les années 70, c'était la psychothérapie rogérienne, beaucoup de livres sur le conseil pastoral de type rogérien. Après, ça a été l'analyse transactionnelle, qui est quand même très, très développée aussi, la thérapie systémique, éventuellement la logothérapie de Frankl, etc. Éventuellement Freud, éventuellement Jung. Voilà. Donc vous allez trouver tout ça. Et quelquefois, une synthèse harmonieuse par des gens qui sont compétents en théologie et qui sont compétents en psychothérapie. Quelquefois, des trucs un peu plus chaotiques par des gens qui ne sont pas très compétents en psychothérapie, qui font de la vulgarisation un peu rapide, et qui sont peut-être encore moins compétents en théologie, ce qui fait des résultats, voilà, pas forcément. Donc, il y a de tout. Encore une fois, il y a le meilleur et le pire là-dedans.
On peut dire non.
Je ne m'y risquerai pas, là. Hein. Je peux vous donner des livres classiques, mais pas de jugement là-dessus. En tout cas, ce qui veut dire, là, l'idée qui est derrière, c'est soit un pasteur, soit un conseiller, hein, quelqu'un qui a une certaine formation pour ça et qui est spécifique. Dans tous les cas, je dirais, c'est un spécialiste qu'on vient consulter, là aussi, c'est ponctuel, c'est parce qu'il y a un problème particulier. Là, je dirais, il va y avoir une attention à la personne. Bien sûr, la dimension du péché, la dimension de la grâce va jouer, mais pas seulement ça. Il y a un peu, je dirais, quelque chose qui est de l'ordre de la psychothérapie avec une référence chrétienne. La dimension spirituelle sera un repère essentiel, mais pas nécessairement le principal, ni le seul. Et en général, dans ce type d'aide, on va être par exemple aussi attentif au risque de fuite dans le spirituel. Hein, qui est aussi une réalité tout à fait pertinente. Autre chose très à la mode, c'est le coaching. Hein, qui est arrivé récemment dans l'église en passant par l'entreprise. Il s'agit d'un accompagnement. On parle quelquefois de supervision. C'est pas exactement la même chose, mais je dirais qu'il y a quand même des liens entre les deux. Il s'agit d'un accompagnement assez long mais limité dans le temps. Et on pourrait dire que le but en général, c'est de rendre un ministère plus efficace. C'est le coaching, c'est pas l'écoute de la personne comme ça, je dirais, en soi pour elle-même. C'est souvent un coaching en vue de rendre efficace un service. C'est comme pour la supervision, plutôt j'ai envie de dire un accompagnement que je dirais professionnel, hein, plus que fondamental, etc. Et la vie personnelle est concernée, bien sûr, mais souvent, elle est concernée dans la mesure où elle a des conséquences pour le service. Dernier point, on pourrait en trouver d'autres, hein, mais dernier point qui existe évidemment, c'est la dimension de partage spirituel. Hein, c'est la relation, je dirais, plus informelle entre deux personnes ou un groupe de personnes qui va s'accompagner mutuellement, partager spirituellement. Deux personnes qui sont sur un pied d'égalité, l'une et l'autre, qui s'accompagnent mutuellement, qui partagent les problèmes, qui partagent leur vie, qui partagent leurs prières. Au fond, la relation, là, contrairement à toutes les autres, est symétrique. Hein, ce qui n'est pas le cas des autres. Voilà. Et ça, je dirais, c'est pas de l'accompagnement spirituel au sens où nous l'attendons, mais c'est une excellente chose aussi, hein, comme beaucoup d'autres choses. Alors, ce que nous entendons par accompagnement spirituel, au fond, vous l'avez déjà j'imagine un peu perçu à travers ce qu'on a dit aujourd'hui, cette session en particulier, que ce soit un peu avec Ignace, que ce soit ensuite avec Jean de la Croix, etc. Ce qui est visé dans l'accompagnement spirituel, ça n'est pas la solution à un problème ponctuel. C'est pas de l'ordre de la thérapie. C'est une aide à plus ou moins long terme dans le cheminement de vie d'une personne. Et je dirais plus que ça, dans le cheminement de vie devant Dieu, avec Dieu, d'une personne. Donc au fond, on ne va pas trouver un accompagnateur en disant « voilà, j'ai un problème ». Ce n'est pas d'abord la raison. Peut-être que ça sera le point de départ d'ailleurs, ça. Mais je dirais, ce n'est pas le but premier. C'est plutôt, au fond, je voudrais approfondir ma vie spirituelle. Et la vie spirituelle, quand je dis vie spirituelle, je ne parle pas de la vie de prière seule. C'est la vie dans sa totalité, comme il nous a été rappelé ce matin là, de la prédication, donc la vie dans sa totalité, mais à la lumière de Dieu. Hein. C'est une relation qui reste asymétrique, Ce n'est pas à deux personnes de la même manière. Elle s'instaure à la demande de l'accompagné et elle va être centrée sur le vécu de cette personne et plus précisément, mais pas uniquement, mais plus précisément sur la relation entre Dieu et cette personne. Quand je dis centré sur le vécu, voilà, ce n'est pas juste un échange d'expérience. Et si l'accompagnateur, à tel ou tel moment, peut être appelé à donner sa propre expérience, etc., c'est pas ce qu'il va pouvoir penser, à tort ou à raison d'ailleurs, il ne faut pas exagérer non plus, je crois, de ce côté-là, que ça pourrait être utile. Mais ce n'est pas, c'est pas fait pour donner à l'accompagnateur, c'est pas un échange, simplement. Et d'une certaine manière, ça sera la responsabilité de l'accompagnateur, pas toujours simple, de maintenir le cadre relationnel qui permet de garder cet objectif au centre de la relation. Hein, de ne pas virer vers l'amitié sympathique où on échange et on parle de la pluie et du beau temps. Autre chose très importante, l'accompagnateur ne dirige pas l'accompagné. Il n'attend pas de lui une obéissance aveugle. Et j'aurais envie de dire, n'attend pas de lui une obéissance. A fortiori aveugle. L'accompagnateur l'aide à discerner le travail de Dieu dans sa vie. Hein, c'est pour éclairer au fond un regard sur le travail de Dieu dans la vie de la personne et à se rendre disponible à l'action de l'Esprit. Mais comme on avait dit hier pour la pensée d'Ignace, hein, l'accompagnateur ne peut pas discerner à la place de l'autre. Et il ne peut et ne doit rien imposer. Ça, on aura le temps longuement d'approfondir ça. Et à la différence de l'accompagnement psychologique, c'est la relation entre Dieu et la personne qui est centrale. Je dis qui est centrale parce que, évidemment, que dans ce type d'accompagnement, certaines dimensions psychologiques jouent aussi. Hein. Mais le but, je dirais, ce n'est pas d'abord d'être bien dans ses baskets, mais le but, c'est d'abord la relation avec Dieu. Qu'il y ait des éléments psychologiques, bien sûr, c'est plutôt l'axe qui est différent. L'accompagnateur n'est pas neutre, ne se veut pas neutre, le cadre est très consciemment spirituel. La référence à l'Écriture, à la présence de Dieu, éventuellement manifestée par la prière, est claire. Je pense qu'on va aller trouver un accompagnateur spirituel parce qu'on sait que c'est dans ce cadre-là, donc je veux dire, il n'y a pas de difficulté. D'autre part, à la différence du travail pastoral quotidien, parce qu'il y a aussi, je ne l'ai pas cité, mais il y a aussi cet accompagnement pastoral qui est un méli-mélo un peu tout en fonction des besoins, hein, plus au quotidien, à la différence de l'accompagnement pastoral, j'ai envie de dire, seul importe vraiment le cheminement de la personne. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Il ne doit pas y avoir dans l'accompagnement spirituel, de notions de discipline d'église ou d'intérêt communautaire. C'est une des difficultés, me semble-t-il, quelquefois, du ministère pastoral, où on est à la fois l'accompagnant de certaines personnes, mais aussi le responsable, je dirais, de l'ensemble de la communauté, donc le gardien, d'une certaine manière, de la santé de la communauté, la dimension de la discipline, ben, c'est souvent quand il y a, le mot est un peu fort, mais... Et c'est aussi le pasteur qui est responsable de ça, et il y a des moments où il y a des courts-circuits possibles. Dans l'accompagnement spirituel, au fond, on s'occupe de la personne, on est en dehors de cette situation-là. Ce qui veut dire que l'accompagnateur doit être neutre, complètement neutre, devant les décisions prises, devant les discernements opérés. Et donc, il doit avoir aucun intérêt dans la prise de telle ou telle décision. Ce qui rend un tout petit peu difficile l'accompagnement par une personne qui est engagée dans un ministère tout proche, un collaborateur proche, voilà, ça risque de faire là aussi un peu court-circuit. Une certaine distance est souhaitable, distance de fait, je dirais, avec une fonction qui n'est pas trop proche. Hein. C'est vrai que, voilà, si vous êtes pasteur et que vous êtes le président de la commission des ministères, vous n'allez pas accompagner un autre pasteur, parce que ça fait des casquettes très diverses, très différentes. Mais en même temps, la nécessité de garder une certaine distance avec la personne. J'ai envie de presque dire que l'amitié, une amitié très grande peut devenir une relative gêne pour la capacité d'aider la personne. L'idéal, on l'avait déjà dit hier, ça serait qu'il n'y ait quasiment pas de relation autre que celle d'accompagnement avec cette personne-là. Bon, on fait ce qu'on peut, après je vous dis l'idéal. Et puis, alors, il est clair que dans cet accompagnement, la diversité des spiritualités va influencer la forme que peut prendre l'accompagnement. C'est vrai que si quelqu'un a une spiritualité de type du Carmel, Thérèse d'Avila, thérésienne, au fond, ça va être légèrement différent, et peut-être à certains endroits assez fortement différent, d'une spiritualité de type ignatienne. Mais, je dirais que cette diversité, elle est quand même limitée par le respect de l'autonomie de la personne devant Dieu. C'est-à-dire que, si nous jugeons utile de parler de cette diversité de spiritualité, c'est pas uniquement pour avoir une première année où on parle parce qu'on a envie de parler des spiritualités, donc on en parle, on se fait plaisir, on espère vous faire plaisir, c'est pas uniquement pour ça. C'est parce que le but de l'accompagnement n'est pas d'aider la personne à suivre le chemin spirituel qui est celui de l'accompagnateur. Le but de l'accompagnement, c'est d'aider la personne à s'épanouir, si j'ose dire, dans sa propre spiritualité. Et donc avoir en préalable une certaine vision de la diversité, parce que cette diversité de spiritualité, elle est liée à des questions d'histoire personnelle, mais aussi de tempérament, de psychologie, de goût, etc. Dans tout ce qu'on a dit, il y a des gens qui sont, je dirais, absolument passionnés par Jean de la Croix, Thérèse d'Avila et beaucoup d'autres qu'on n'a pas cités d'ailleurs, et puis vont être un peu allergiques à certaines formes ignatiennes, par exemple. D'autres, François d'Assise, les enthousiastes, et puis d'autres spirituels, pas du tout. Voilà, je crois que savoir un peu cette diversité, avoir conscience qu'on est là pour aider l'autre sur son propre chemin, est quelque chose de véritable, de fondamental. Enfin, l'accompagnement peut inclure dans la pratique certains aspects qui relèvent de la cure d'âme, qui relèvent du conseil pastoral. Parce que quand vous êtes accompagné par quelqu'un, lorsque vous aurez un problème qui normalement vous amènerait à aller voir un pasteur, ou c'est spontanément à cette personne qui vous accompagne que vous allez en parler. Mais je dirais deux choses. La première, c'est que c'est relativement plus simple, me semble-t-il, à l'intérieur de l'accompagnement, parce que le problème, la personne ne débarque pas avec son problème. Vous la connaissez déjà, il y a déjà cette relation préexistante qui facilite quand même les choses, et puis la relation garde une perspective plus large. Le but n'est pas seulement de résoudre ce point. Peut-être un dernier point que je voudrais dire. Il faut reconnaître que chaque personne qui accompagne va accompagner aussi avec ce qu'elle est et avec son tempérament. Et donc, il me semble que l'enseignement sur l'accompagnement spirituel, c'est rendre attentif à un certain nombre de choses. Il y a des bases, je dirais, qu'il vaut mieux savoir. Il y a beaucoup de bêtises qu'il vaut mieux connaître pour les éviter. Mais après, c'est avec notre propre expérience, notre propre psychologie, notre propre vie spirituelle, notre propre sensibilité que nous accompagnons. Ce qui fait que deux personnes qui vont avoir la même formation, les mêmes principes, les mêmes idées de base, quand elles vont accompagner, auront des manières de faire qui seront relativement différentes. Donc, je dirais, le but de l'enseignement, là, n'est pas de formater une manière de faire où tout le monde, sortant de cette formation, sera identique. Moi, j'ai eu l'occasion, dans ma propre formation, de passer, si j'ose dire, entre les mains de gens relativement divers, qui avaient la même formation exactement et les mêmes convictions. On se rendait compte que c'était très différent, le type de relation variait beaucoup. Et c'est bien. Ce qui veut dire aussi que l'accompagnement spirituel est toujours une relation unique, quelque part. Et donc, c'est toujours à la demande de l'accompagné. On ne peut pas imposer un accompagnement à quelqu'un. Il faut que ce soit la personne qui choisisse et il faut que les atomes crochus, il faut qu'il y ait des atomes crochus, il faut que ça fonctionne. Donc voilà, il y a quand même une chose un peu unique. Je crois que je vais m'arrêter là, puis laisser à Linda la parole. Ça, après, on pourra creuser un peu plus.
Parfois, on utilise l'image de sage-femme pour quelqu'un qui accompagne. Elle aide, elle assiste à l'enfantement, elle assiste l'enfantement de la vie, mais ce n'est pas elle qui produit la vie, ce n'est pas elle qui fait le travail. Et je trouve que ça peut être une image qui nous aide, hein, de sage-femme. J'aimerais juste dire quelques mots au niveau du cadre de l'accompagnement. Et on va aussi revenir l'année prochaine de manière plus détaillée. Mais au début d'une relation d'accompagnement, il est utile de fixer ensemble le cadre, établi un contrat entre guillemets, parce que je ne veux pas dire un contrat écrit, hein, mais au moins parler un peu du cadre, de préciser des attentes, ce qu'on attend l'un à l'autre, qu'est-ce qu'on peut donner. Chaque fois que je prends quelqu'un de nouveau, on précise les attentes, ce que je peux offrir, ce que je ne peux pas offrir, ce que l'autre personne attend. Parce que parfois, si on ne précise pas les attentes, quelques mois après, la personne dit « oui, mais j'attendais ça et c'est pas ça ». C'est bien toujours de préciser les attentes des deux. Et puis fixer le rythme des rencontres et la durée. Fixer le rythme et la durée. Bon, et là encore, il n'y a pas de règle absolue, mais le rythme, normalement, je dis normalement après, mais normalement c'est une heure, une fois par mois. C'est un bon rythme de croisière. Ça peut être moins. Surtout, par exemple, si la personne vient de loin et vient, par exemple, tous les deux mois, on peut prendre un peu plus d'une heure. Mais donc, il y a des variations, mais normalement, c'est une heure, une fois par mois. Je dirais se voir plus souvent qu'une fois par mois, pour moi, comporte des risques. Des risques de dépendance, risques de basculer dans une relation d'aide. Mais il est vraiment utile de fixer ce temps au début. Donc ça, c'est au niveau du rythme dans le compte. Au niveau de la durée, il est bien, quand la première fois on commence avec quelqu'un en accompagnement, d'avoir une période d'essai où on peut évaluer après. Ça permet qu'on peut, si ça ne colle pas, il n'y a pas d'atome crochu, on dit bon, on arrête et... Mais on peut au moins discuter ensemble. Mais je dirais même après qu'on accompagne une personne, moi je le fais chaque fois, même après une année, deux ans, je fixe toujours une limite de durée où on réévalue la relation. Parce que peut-être après 4, 5, 6 ans, ou 7 ans, ou 10 ans, la personne a peut-être besoin de quelqu'un d'autre pour accompagner, pour aller plus loin. Ou peut-être, ça peut venir de l'accompagné ou l'accompagnateur, mais le fait de fixer la durée, de dire, bon, pendant un an, on va se voir et on va réévaluer la relation à la fin de cette année, ça donne au moins la liberté, on peut continuer ou arrêter, ça nous donne une liberté quand même. On n'est pas, l'accompagné n'est pas gêné pour dire, attends, j'aimerais quand même bien arrêter, mais je ne veux pas lui faire du mal. S'il y a des limites, c'est plus facile. Je trouve que toutes les précisions qui facilitent la liberté de chacun est bon. Il faut préciser ses limites. Au niveau du sujet de conversation, on parle de quoi? Si vous allez choisir quelqu'un pour accompagner la première fois, vous allez... quel sujet? Je dirais, le sujet est choisi par l'accompagné. C'est pas l'accompagnateur qui a un ordre de jour et qui, chaque fois, veut parler d'un sujet ou d'autre. C'est l'accompagné qui choisit. Et ça peut être, je dirais, toute expérience de vie. Toute expérience de vie vécue devant Dieu, vue à la lumière de Dieu. Ça peut être comment la personne voit l'œuvre de Dieu en ce moment dans sa vie, quelles sont les résistances, quels sont les moments de grâce, passage du désert, Dieu semble absent, sa vie de prière. Ça peut être qu'est-ce que Dieu est en train de faire par ses relations au niveau famille, amis, collègues de travail. Les choix, discernement, ça peut être vraiment toute expérience de vie. Tout est ouvert. Mais c'est l'accompagné qui choisit quel sujet. J'ai pensé peut-être avant d'ouvrir, peut-être, je ne sais pas où on peut parler, mais de voir un peu les sujets, ou les thèmes, pas les sujets, mais les thèmes qu'on pense voir pour les 2 ans à venir. Je ne sais pas si ça vous aiderait aussi. Donc, dans les 2 ans à venir, ça serait de regarder, de revenir sur la prière, mais dans le cadre de l'accompagnement, les écritures, le discernement, les temps de désert et nuit, mais dans le cadre de l'accompagnement, on va faire quelque chose sur les phases de la vie spirituelle pour voir dans quelle phase est la personne, quels sont ses besoins dans ces phases-là. Donc, il y a ces thèmes-là. Il y a aussi des thèmes importants que souvent les gens viennent chercher un accompagnement, parfois dans les moments de crise. Souvent, ça commence là. Malheureusement, mais ça commence là. Et donc, les thèmes importants comme les pertes et les deuils, on va prendre, parce que souvent, on accompagne des gens qui sont... Soit qu'ils passent par des nuits, il y a des pertes. Donc, perte, deuil et aussi pardon. C'est un thème qui revient beaucoup dans l'accompagnement, le pardon. Donc, on va prendre ces thèmes. On va prendre tout un aspect aussi de spiritualité et personnalité. Combien notre la spiritualité dépend de notre personnalité, notre manière d'être, notre manière de faire. On a une petite rubrique qui s'appelle « Discerner l'action de Dieu ». Et chaque session, on donne des aides très pratiques, vraiment terre à terre, de comment discerner l'action de Dieu dans notre vie. On peut donner ces aides, suggérer ces aides à l'accompagner. Et puis surtout, le troisième année, on va travailler beaucoup les verbatim, des comptes rendus, d'entretien que chacun de vous aura avec quelqu'un que vous accompagnez. Donc on va travailler des récits. En troisième année, il faut aussi accompagner quelqu'un et on va travailler sur les comptes rendus de vos accompagnements de quelqu'un d'autre. Parce que on apprend en faisant aussi. Mais ça, on attend le troisième année.